Voilà, donc on se retrouve toujours en direct des RIA. On va poursuivre avec un podcast historique qu'on a fait à Libre Radio. Vous savez qu'à Libre Radio, nous on aime bien les événements historiques qui ont mené à des succès ou à... Et on va vous parler d'un podcast sur les martyrs de Haymarket en 1887. Une bombe a explosé et plusieurs anarchistes ont été pendus, condamnés à la réclusion à perpétuité. Et c'est grâce ou à cause de cet événement que le 1er mai est devenu la fête officielle du travail. Donc voilà pour vous un petit podcast. On y tient beaucoup. Vous savez que Libre Radio est ici grâce à William qui nous a quittés en 2022. Il nous manque terriblement. On est très fiers de l'avoir croisé. Vous allez entendre sa voix. On va entendre sa voix et c'est toujours un grand moment. William, on t'aime.
Voilà, ça recorde.
Vas-y, quand tu veux. À toi de jouer.
Le 13 novembre 2021, l'un de nous trois a 60 ans. Dans le cadre du CLS, nous avons cherché quelque chose à raconter qui s'est passé un 13 novembre. Et donc nous voilà le 13 novembre 1887 à Washington. Les 200 000 personnes suivent l'enterrement de quatre anarchistes qui ont été pendus le 11 novembre 1887. August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Hegel ont été pendus. Louis Ling s'est suicidé la veille dans sa cellule. Samuel Fielden, Michael Schwab et Oscar Niebe ont été envoyés en prison pour 15 ans. Toutes ces personnes ont été accusées d'un attentat qui s'est passé une année avant, le 3 mai 1886. Vous apprendrez un peu plus tard pourquoi. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le 25 juin 1893, un gouverneur d'Illinois démontrera l'innocence des accusés. Les morts sont alors réhabilités. Samuel Fielden, Michael Schwab, Oscar Niebe seront mis en liberté après 7 ans de bagne. Aujourd'hui, on se souvient de Nicolae Ba ou Sacco Vanzetti, probablement parce que John Baez en a fait une très belle chanson. Mais voilà 5 innocents qui ont payé de leur vie. Et on va vous raconter leur histoire.
Alors effectivement, c'est un procès fantoche qui se tint dès le 21 juin 1886 à la cour criminelle du comté de Cook, dans le centre de Chicago. C'est le procès d'individus, mais c'est également le procès des anarchistes du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, sous couvert qui s'articule. Effectivement, le procureur, en l'occurrence, en l'espèce Julius Grinnell, déclare ainsi lors de ses instructions au jury populaire, je cite, il n'y a qu'un pas de la République à l'anarchie, c'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs, ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs du jury, condamnez ces hommes, faites d'eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société. C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie ou non. Alors, en quelques mots, revenons, et en quelques jalons, revenons à ce qui nous a menés à ce procès. Effectivement, nous sommes en 1886, aux usines de machines agricoles McCormick, à Chicago, aux États-Unis. Le 1, le 3 et le 4 mai, des manifestations monstres pour la journée de 8 heures de travail ont lieu, ont cours. On y travaille habituellement 10 et même 12 heures quotidiennes. Et c'est un moment où, eh bien, McCormick décide, l'usine décide de renvoyer l'ensemble des employés qui sont syndiqués. Ça déclenche quelque chose. Parmi les orateurs, eh bien, comme l'a dit Pierre, eh bien, on trouve Spies et Parsons. qui lui, personne, se livrera quelques moments après l'arrestation de ses compagnons. Le Chicago Mail, à l'époque, réclame la tête d'August Spitz et d'Albert Parsons. Je cite, « De dangereux chenapans se promènent en liberté dans notre ville, de lâches qui ne songent qu'à semer le désordre sans prendre de risques personnels. Il faut pendre ces deux hommes et en faire un exemple. » Effectivement, les deux seront pendus. Infiltré par les Pinkerton et durement réprimé, la manifestation du 4 mai au soir, lorsque la majorité des manifestants sont dispersés, eh bien, la police mène une énième charge. Nous sommes à ce moment-là à High Market Square, cette bombe explose, les policiers tirent, bilan, 7 morts des deux côtés. Sans aucune preuve, eh bien, les personnes qu'a cité Pierre sont arrêtées. Il se trouve que la plupart n'étaient même pas sur les lieux et que ceux qui y étaient parmi les orateurs et que donc ils ne pouvaient pas se trouver à deux endroits au même moment. Des 12 jurés, aucun n'était ouvrier. 4 déclaraient haïr les radicaux et tous reconnurent ultérieurement être déjà convaincus de la culpabilité des accusés avant le début du procès. Le gouverneur de l'Illinois, John Peter Atgeld, indiquera à la suite de son enquête que, je cite, la plupart des preuves présentées devant le procès étaient des faux purs et simples, fin de citation, et que les témoignages avaient été extorqués à des hommes, je cite, terrorisés, fin de citation, que la police avait, je cite, menacé de torture s'ils refusaient de signer ce qu'on leur dirait, fin de citation. Voilà, alors je vais les reciter également, leurs noms, August Spitz, George Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, Oscar Nebe, et Samuel Fielden, le huitième, Albert Parsons, lui, se livrera à la police. Il faut savoir qu'un vaste mouvement de protestation internationale se déclenche, que les peines de mort de Michael Schwab et Samuel Fielden sont commuées en prison à perpétuité, qu'ils seront graciés le 28 juin 1893. Comme dit tout à l'heure par Pierre, Louis Ling se suicide en prison en se faisant, et on le verra dans les documents, en se faisant sauter une bombe dans la bouche. Le jour précédant son exécution, il meurt 20 heures plus tard dans d'atroces souffrances. Quant à August Spitz et George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons, ils sont pendus le 11 novembre 1887, connus sous le nom de Black Friday. Ce sont les martyrs de High Market dont on célèbre la mémoire aujourd'hui et les faits tragiques qui en ont scellé le sort, on verra plus tard jusqu'en 1889 où on formalisera la journée internationale du droit des travailleuses et des travailleurs. Et voilà dans quoi celle-ci s'enracine. Nous reviendrons également sur les Pinkerton, une agence privée de détectives, un bras armé des briseurs de grève, doublé d'entristes à la solde des patrons, de la pure canaille violente et sans aucun scrupule des mercenaires. Et je ne peux m'empêcher de citer August Spitz, dont la citation est au monument qui leur est dédié. Alors je cite, « Le temps viendra, cette fameuse phrase, hein, le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Une dernière citation avant de céder la parole, celle de Louis Ling, « Qu'est-ce que l'anarchie ? Qu'est-ce que l'anarchie ? Une existence humaine digne durant toute notre vie car elle garantit à tous la parfaite liberté individuelle par laquelle les besoins de l'homme sont satisfaits dans la répartition équitable des productions de la communauté. » La société libre anarchiste trouve ses limites dans celle de la terre. L'anarchie consiste à garantir la plus grande part de bonheur pour tous. Cet objectif s'obtiendra par l'extirpation totale de la domination. Cette domination est personnifiée par des exploiteurs et des tyrans. Après l'abolition de la domination, les travailleurs s'organiseront en accord avec leurs capacités et leurs besoins. La centralisation, c'est-à-dire la soumission des divers groupes de production et de consommation sous le contrôle d'un groupe composé d'individus dominateurs ou d'une majorité de gens autoritaires, n'est pas recommandable car elle établirait une nouvelle domination et rendrait illusoire les objectifs évidents de la société libre et anarchiste. Ça, c'est publié le 16 mars 1888 dans Die Freiheit. Et eh bien voilà, pour cette entrée en matière, peut-être dire encore qu'en 1893, les condamnés sont innocentés et enfin réhabilités par le gouverneur de l'Illinois, John Peter Atgeld, qu'on a cité, mettant en cause dans son discours de grâce la police et particulièrement son chef, Bonfield, qu'il juge responsable de l'attentat par les brutalités répétées, redoublées qu'il a lui-même commises envers la population. Et bien ce dimanche 13 novembre, nous nous souvenons des obsèques, effectivement des martyrs de Haymarket à Chicago, ce triste épisode de l'histoire sociale combative pour la journée de 8 heures, comme on l'a dit, et qui vit la naissance officielle en 1889 de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs, sur laquelle, bien entendu, nous reviendrons. Peut-être encore une toute petite parenthèse avant de céder la parole pour de vrai. Une petite annonce extrêmement importante. Mardi prochain, le 16 novembre à 15h15, à Yverdon, rue des Moulins 8 précisément, un goûter de soutien se tiendra contre la répression administrative et judiciaire à l'encontre du quartier libre à Clindy-Dessous. Alors le quartier libre à Yverdon, c'est une ZAD périurbaine qui s'oppose à un projet de bétonisation, d'asphaltisation démesuré et déshumanisant. Un espace de lutte, d'accueil et de solidarité et d'expérimentation anticapitaliste qui fut occupé le 21 octobre 2021, tout récemment. Alors, le goûter de soutien se déroulera avant l'audience de 15h30 qui se situe rue des Moulins 8 devant le tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Celui-ci statuera si la procédure habituelle aura cours ou si elle décide d'appliquer des mesures, ce qu'on appelle des mesures provisionnelles, auquel cas un départ immédiat pourrait être prononcé à l'encontre du quartier libre. Donc c'est extrêmement important d'aller soutenir le quartier libre. C'est mardi 16 prochain à 15h15 à Yverdon, 8 rue des Moulins, soit là. Voilà, à vous la parole.
Merci William. Donc comme source, je vais vous lire celle de la Tribune de Genève du 15 novembre 1887. États-Unis. Exécution des anarchistes. Le New York Herald donne les détails complémentaires qui suivent sur l'exécution des anarchistes de Chicago, dont nous avons parlé. Tous les condamnés sont restés éveillés, causant tranquillement jusqu'à minuit et demi. Personne a dit que Ling, celui qui s'est suicidé en allumant une cartouche de dynamite, qu'il tenait entre ses lèvres, avait sacrifié sa vie dans l'espoir que sa mort apaiserait la fureur du public et sauverait ses compagnons. Une scène des plus émouvantes a eu lieu lorsque Madame Spies a dit un dernier adieu à son fils. Mais celui-ci a reçu très froidement sa fiancée, Nina Van Zang. En quittant la cellule du condamné, Nina lui a dit, je cite, « Je te rejoindrai demain. » Et Spies répondit simplement, je cite, « Je l'espère bien. On croit que cette malheureuse fille a l'intention de se suicider. » À 8h du matin, les condamnés furent changés de cellule et ce qu'on appelle la garde des morts commença. Au moment où le corps de Ling était mis en bière et où les charpentiers commençaient à dresser l'échafaud, une femme au grand deuil frappa doucement à la porte de la prison. C'était Madame Personne, qui suppliait instamment qu'on lui permît de voir encore une fois son mari. Mais on lui refusait cette faveur, et la pauvre femme, poussant un cri terrible, tomba évanouie sur le sol. L'arrêt fut lu à chacun des condamnés, et le cortège funèbre se mit en marche. Fischer entanna la Marseillaise, et ses compagnons firent chorus. Tous les quatre montèrent sur l'échafaud. Le nœud fut ajusté au cou de chacun d'eux, et, avant que la trappe fût ouverte, Fischer cria en allemand « Vive l'anarchie ! Hors die Anarchie !» Les mêmes mots qui ternaient la dernière lettre laissée par Ling. L'agonie de Fischer et de Spies a été terrible, et personne s'est effroyablement débattu. La mort n'est venue qu'au bout de 7 minutes. Les obsèques des 4 anarchistes pendus vendredi ont eu lieu dimanche après-midi. Les amis des défunts ont été en procession prendre les corps aux maisons mortuaires. La femme de Person, qu'on avait arrêtée vendredi parce qu'elle avait adressé une allocution violente à la foule réunie autour de la prison, a été relaxé après 2 heures de détention.
On poursuit avec le Petit Parisien du 12 novembre 1987. Les condamnés de Chicago. On télégraphie de Chicago.
L'anarchiste Ling s'est suicidé hier dans sa prison. Il s'est placé dans la bouche une capsule explosive à laquelle il a mis le feu avec une bougie qu'il avait dans sa cellule. L'explosion fit un bruit terrible. Les gardiens s'élancèrent dans la cellule toute remplie de fumée et trouvèrent Ling couché sur le dos, ayant au front de grands trous d'où le sang coulait à torrents. On examina le malheureux et on constata que le tissu de la gorge, du cou, du front et de la mâchoire avait été déchiré. Malgré ses horribles blessures, il survécut quelques heures et ne mourut qu'à 3 heures de l'après-midi. Chicago, 11 novembre. La peine de mort prononcée contre les anarchistes Schwab et Tilden a été commuée en celle de la prison à perpétuité. Leurs 4 compagnons seront pendus ce matin. New York, 11 novembre. Hier soir, une bande d'environ 2000 anarchistes s'est promenée dans les rues jouant de la vieille et du tambour. Des drapeaux rouges ont été déployés. On ne signale aucun désordre. À Cincinnati, une autre procession anarchiste a été dispersée sans difficulté par la police. Chicago, 11 novembre. Les anarchistes Engel, Pearson, Parsons, Spies et Fischer ont été pendus ce matin. Aucun désordre. Tranquillité parfaite jusqu'à présent.
Voilà, et on continue avec la presse française. Il s'agit ici d'un article du Figaro du dimanche 13 novembre 1887. Les pendus de Chicago. Nous empruntons, au New York Herald le récit de l'exécution des anarchistes qui a eu lieu vendredi matin à Chicago. Le rideau est tombé sur le dernier acte de la terrible tragédie dont le premier acte commença au mois de mai au Haymarket de Chicago. Spies, Engel, Fischer et Parsons ont été pendus. Et les farouches anarchistes savent maintenant que le gouvernement ne permettra jamais au communisme de s'établir aux États-Unis. C'est ce matin que la trappe s'est ouverte sur l'échafaud dressé dans l'intérieur de la prison du comté de Cork et que les 4 anarchistes ont expié le meurtre de 7 policemen et les blessures faites à 59 agents. Tous les condamnés sont restés éveillés, causant tranquillement jusqu'à minuit et demi. Parsons a dit que Ling, celui qui s'est suicidé en allumant une cartouche de dynamite qu'il tenait entre ses lèvres, avait sacrifié sa vie dans l'espoir que sa mort apaiserait la fureur du public et sauverait ses compagnons. Une scène des plus émouvantes a eu lieu lorsque Madame Spies a dit un dernier adieu à son fils, mais celui-ci a reçu très froidement sa fiancée Nina Van Zandt. En quittant la cellule du condamné, Nina lui a dit, je cite, « Je te rejoindrai demain », fin de citation. Et Spies répondit simplement, je cite, « Je l'espère bien », fin de citation. On croit que cette malheureuse fille a l'intention de se suicider. À 8h du matin, les condamnés furent changés de cellule et ce qu'on appelle la garde des morts commença. Au moment où le corps de Ling était mis en bière et où les charpentiers commençaient à dresser l'échafaud, une femme, en grand deuil, frappa doucement à la porte de la prison. C'était Madame Parsons qui suppliait instamment qu'on lui permît de voir une fois encore son mari. Mais on lui refusa cette faveur et la pauvre femme, poussant un cri terrible, tomba évanouie sur le sol. L'arrêt fut lu et chacun des condamnés et le cortège funèbre se mit en marche. Fischer entonna la Marseillaise et ses compagnons firent chorus. Tous les 4 montèrent sur l'échafaud, le nœud fut ajusté au cou de chacun d'eux et avant que la trappe ne fût ouverte, Fischer cria en allemand « Vive l'anarchie, hors die Anarchie », les mêmes mots qui terminaient la dernière lettre laissée par Ling. L'agonie de Fischer et de Spies a été terrible et Parsons s'est effroyablement débattu. La mort n'est venue qu'au bout de 7 minutes. Voici d'autre part le récit d'un témoin de ce drame. Malgré leur crime épouvantable, le sang-froid et le courage des condamnés provoqua un murmure d'admiration de la part de tous ceux qui étaient présents. Engel fit un jeu de mots au shérif et en rit lui-même de bon cœur. Parsons regardait en souriant la foule qui emplissait les corridors de la prison. Dès que les bonnets furent ajustés, Spies se redressant s'écria « C'est le moment le plus heureux de notre existence ». Ensuite, Parsons, rompant l'effrayant silence, dit « Me sera-t-il permis de parler, ô hommes et femmes de la chère Amérique, Laissez-moi parler, shérif Watson. » Les mots moururent sur ses lèvres. En une seconde, les corps des quatre suppliciés se balançaient au même gibet et le crime de Haymarket était vengé. Les cadavres de Fisher et de Parsons ont été remis à leur famille. Celui de Spitz a été remis à sa mère. Celui d'Engel a été transporté dans une maison de l'avenue Milwaukee où habitent des amis du supplicié.
Donc, dans le cri du peuple, dimanche 13 novembre 1887, les martyrs de Chicago. Depuis la pendaison de John Brown, crime politique aussi atroce, aussi odieux n'avait été commis aux États-Unis. La jeune Amérique n'a plus rien à envier à la vieille Europe ensanglotée par de terribles répressions. Spitz, Pearson, Engel et Fisher ont été pendus hier matin dans la prison de Chicago. Tous quatre sont morts héroïquement, comme doivent le faire les martyrs d'une grande cause, de la cause socialiste révolutionnaire. La bourgeoisie américaine, lâche et cruelle comme la bourgeoisie européenne, n'a pas reculé devant un crime pour tenter de jeter la terreur dans les rangs des révolutionnaires dont le nombre et l'ardeur s'accroissent de jour en jour. Elle s'est trompée, l'avenir le prouvera. Nous reviendrons demain sur cet assassinat monstrueux qui déconcerte la conscience publique. Nous envoyons notre salut de solidarité à ceux qui sont morts et à leurs survivants, à tous les révolutionnaires américains qui, nous l'espérons, seront les vengés. Notre numéro de demain, en aparté, nous publierons demain les portraits de Spitz, Pearson, Engel et Fisher qui ont été assassinés hier à Chicago, de Ling qui s'est suicidé, de Schwab et Finden, dont la peine a été commuée. Enfin, celui de Nina von Zang, l'héroïque compagne de Spitz.
Nous sommes le dimanche 14 novembre 2021, et voilà pour terminer le cri du peuple du 14 novembre 1887. La boucle est bouclée. Les martyrs de Chicago. Les assassinats de Chicago. Quadruple pendaison. Dans la prison, l'attitude des condamnés, l'agonie. Les quatre anarchistes condamnés à mort, dont la peine n'a pas été commuée, ont été pendus vendredi à midi dans la prison de Chicago. En prévision d'une tentative des anarchistes pour délivrer leurs camarades ou empêcher l'exécution, des mesures extraordinaires avaient été prises. Autour du bâtiment de la prison et dans toutes les rues environnantes, des cordons de milices à pied et à cheval empêchaient la foule d'approcher. L'intérieur de la prison était garni d'agents de police. Les troupes étaient consignées dans toutes les casernes. Ce matin, les gendres des trois condamnés s'étaient présentés chez le directeur de la prison pour demander l'autorisation de dire adieu à leurs parents. Cette autorisation leur ayant été refusée, ils déclarèrent ne pas vouloir quitter la prison avant qu'on eût fait droit à leur demande. On a fini par les écrouer en attendant que l'exécution fût terminée. Lorsque, midi approchant, on vint prévenir les prisonniers de se préparer à mourir, le condamné Fisher entonna à haute voix la Marseillaise, puis, entendant le bruit causé par l'érection de l'échafaud, il parla de ses rêves de jeunesse et de sa patrie, l'Allemagne. À midi moins dix, les quatre condamnés furent extraits de leurs cellules. On les réunit en cortège et le cortège se dirigea vers le lieu du supplice, situé dans une partie de la prison. Un shérif ouvrait la marche, puis venaient les condamnés dans l'ordre suivant. Spitz en avant, ensuite Fisher, puis Parson, et comme dernier Engel. Tous les quatre étaient habillés de noir, leurs mains étaient attachées derrière le dos, et des deux côtés, les gardiens les tenaient par les bras. Lorsque l'exécuteur des autres œuvres ajusta le nœud coulant autour du cou d'Engel, celui-ci poussa le cri « Vive l'anarchie !» Spitz et Parson avaient la face résolue et froide. fit chair de superbe indifférence, ainsi qu'il l'était dans la vie, semblait embrasser la mort. Il dit à haute voix que ce moment était le plus heureux de sa vie. Personne ouvrait la bouche pour parler lorsque la trappe s'ouvrit sous ses pieds. Il tomba dans le vide avant d'avoir pu prononcer un mot. Les dernières paroles de Spies ont été « Salutons, ou notre silence sera plus puissant que nos voix qu'on étrangle dans la mort. » L'agonie de Spies et Fischer a été terrible. Personne s'est débattu épouvantablement dans le vide. Leurs corps ont été placés dans des cercueils. Celui de Fischer et celui de Parson ont été portés par leur femme. Celui de Spies a été remis à sa mère. Celui d'Engel a été transporté dans une maison de l'avenue de Milwaukee. 250 personnes environ, parmi lesquelles beaucoup de journalistes, assistaient à l'exécution. Le soir, une foule considérable s'est massée dans l'avenue de Milwaukee. La population travailleuse de Chicago, tenue de longs mois sous la terreur, se réveille lentement. On n'a pas arrêté le mouvement ouvrier en pendant des hommes qui l'ont si longtemps et si courageusement dirigé. La bourgeoisie de Chicago, comme toutes les bourgeoisies, nous fait voir de quoi elle est capable. Sa haine féroce a dépassé les bornes et elle n'a pas craint d'exécuter son inique sentence, se croyant assez forte pour détruire, en tuant 4 militants, l'idée nouvelle et les revendications prolétariennes. Nos amis, nos frères de l'Illinois, ont été pendus. Bravement, ils sont morts. Devons-nous nous contenter de les pleurer? Non, il y a autre chose à faire. Assez de protestations vaines. Aux actes, de graves événements vont se produire d'ici peu. Les deux parties exploiteurs et exploités seront en présence. Il y aura bataille. Soyons prêts à la livrer. Et comme les martyrs de Chicago, soyons prêts aussi à mourir pour notre cause qui est celle de la justice. Vive la révolution. Vive la révolution sociale. Vive l'anarchie. Édouard de Vertu.
Alors, merci beaucoup pour ces lectures. C'est un sujet effectivement qui va en chercher d'autres. Donc, on se réjouit d'aborder. Et pour terminer, voilà, on va redire nos sources. Ce sont donc des quotidiens et des hebdomadaires d'époque. Alors, certains plus réactionnaires que d'autres, certains plus révolutionnaires que d'autres. Nous avons ici lu Le Cri du Peuple, fondé par un communard célèbre, puisque c'est Jules Vallès qui lui-même a subi les foudres de la population, puisqu'il est mort lynché lors de la Semaine sanglante. Nous n'avons pas fait lecture de La Révolte, qui est un hebdomadaire communiste anarchiste, mais qui sera tout libellé du podcast. C'est un numéro qui est intégralement consacré à cet événement-là. Et puis, effectivement, les deux numéros du Cri du Peuple que l'on a lu, eh bien, il y en a un où on a le portrait en première page des 8 personnes concernées. Tout ça sera évidemment disponible au format PDF sur le site sur la page dédiée au cercle de lecture sociale sur www.libradio.org. Nous avons également lu un bout du Figaro et du Petit Parisien, presse populaire de l'époque, et de la Tribune de Genève, qui est un peu la même chose, mais du coin d'ici. Voilà pour nos sources de cette fois. Et puis sinon, rappel, mardi prochain, le 16 à 15h15 à Yverdon, le goûter de soutien devant le tribunal en faveur du quartier libre, de Clandy-Dessous. Et puis, c'était aujourd'hui, mes chers amis, le dernier live depuis l'unité d'oncologie de DHUG de l'hôpital. Dès la semaine prochaine, nous nous trouvons à l'atelier de l'usine et on aimerait remercier, bien entendu, énormément toute l'équipe de l'atelier de nous permettre de prendre nos quartiers d'hiver en leur compagnie à l'atelier, à l'usine. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaiteraient suggérer des sources, suggérer des sujets, ou me lire, ou juste écouter, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un canal Telegram. Tout ça est indiqué de nouveau sur libradio.org. Sur la colonne de droite, il y a une rubrique CLS, Cercle de lecture sociale. Vous êtes les bienvenus. Voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou est-ce qu'on prend congé? On prend congé. Bon anniversaire, Pierre. Nous, on a un gâteau d'anniversaire. On va s'y consacrer maintenant. Ciao. Là, on s'arrête.